ou sur profilproc.com.
Pierre-Emmanuel Rousseau vient partager son parcours opératique à Mondes Musicaux en émission spéciale ce dimanche 8 octobre de 13 à 15 heures. Bienvenue à toutes et tous à sa rencontre.
Vous vous intéressez aux différents genres de rock? Eh bien, je vous donne rendez-vous le mercredi de 20h à 22h aux quatre coins du rock. René Boudreau, je vous y attends.
Coupure budgétaire, mise à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA FM.
Salut tout le monde, ici Bruno Laberge, l'animateur du Polymath. Tout d'abord, je voudrais juste dire qu'un Polymath, c'est une personne dotée d'une culture poussée, sérieuse et large. Joignez-vous à nous, Pascal Despins, à la recherche et à la réalisation, ainsi que moi-même, Bruno Laberge, à la narration et à la production. Les dimanches à 11h, sur les ondes de CKIA 88.3 FM.
Vous aimez la littérature et le monde du livre? Ne manquez pas Épilogue pour découvrir chaque semaine des livres d'ici et d'ailleurs. Entrevues avec des écrivains, critiques de romans, de poésie, d'essais, de BD et actualités littéraires sont au menu de cette émission qui propose de tout aux oreilles du lecteur et de la lectrice en vous. Épilogue, le dimanche midi, rediffusion mardi 10h sur les ondes de CKIA FM.
Bonjour, je m'appelle Étienne Grandmont et je veux prendre le temps de vous remercier. Il y a maintenant un an, vous m'avez élu comme député du comté de Taschereau. Vous m'avez accordé votre confiance pour être votre voix à l'Assemblée nationale. À chaque jour depuis, je travaille fort pour porter vos revendications, pour mettre en lumière vos enjeux et pour concrétiser vos espoirs. Je suis profondément fier d'être votre député. Merci pour la confiance.
Message d'Étienne Grandmont, député de Taschereau à l'Assemblée nationale.
Amateurs de rock, le samedi soir, c'est à CKIA que ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi, 21h.
Toute simplicité. La plupart des luxes et nombre des soi-disant conforts de la vie sont non seulement indispensables, mais agissent, qui plus est, comme des obstacles à l'élévation de l'humanité. En ce qui concerne le luxe et le confort, Les humains les plus sages ont toujours vécu une vie plus simple et plus humble que les pauvres. Les philosophes antiques, qu'ils fussent chinois, hindous, perses ou grecs, formaient une classe d'hommes sans aucun égal en pauvreté extérieure et richesse intérieure. Nous en savons peu à leur sujet. Il est cependant remarquable que nous en sachions autant que nous en savons. La même chose est vraie au sujet des réformateurs et bienfaiteurs de l'humanité les plus modernes. Nul ne peut être un observateur avisé et impartial de la vie humaine s'il la considère d'un point de vue d'observation autre que ce que nous devons bien appeler la pauvreté volontaire. Le fruit d'une vie dans le luxe est le luxe, que ce soit en agriculture, dans le commerce, en littérature ou dans les arts. Il existe aujourd'hui des professeurs de philosophie, mais aucun philosophe. S'il demeure cependant admirable d'enseigner la philosophie, c'est parce qu'il fut jadis admirable de vivre selon ses principes. Être philosophe, ce n'est pas seulement nourrir des pensées subtiles, ni même fonder une école, mais aimer la sagesse au point de vivre selon ses exigences. C'est une vie de simplicité, d'indépendance, de magnanimité et de confiance.
Il me faudra marcher, marcher vers le nord. Il me faudra marcher sans jamais m'arrêter. Le jour et la nuit, sans jamais de répit. La route sera longue. La blessure est profonde. Il me faudra traverser, traverser la frontière. Traverser la rivière avant que la lune éclaire. Des myriades d'étoiles pour effacer la peur. Le bat plus fort, il s'arrache à la mort. Pour ma liberté, je vis. Pour ma liberté, il faudra marcher. T'accompagne, c'est ce que m'a dit mon frère. Dieu se cache au loin, très loin dans les montagnes. Loin des champs de coton, de nos pauvres maisons. Voilà le marais, il sait où je vais. Il me faudra marcher, marcher vers le bord. J'ai au fond de moi les voix chantant l'espoir. J'ai au fond de moi le regard de mon père. Un radeau de prière. Et les mains de ma mère. Il me faudra marcher pour ma liberté. Pour ma liberté, je vis, je vis. Pour ma liberté. We'll be right back.
Alors, bienvenue en toute simplicité. C'était de l'album de Richard Séguin, Retour à Walden, c'est Pour ma liberté. En début d'émission, comme à chaque émission, je vous ai lu un extrait de Henri David Thoreau, Walden d'Henri David Thoreau. Je trouve que c'est un extrait un peu emblématique de notre émission en toute simplicité, quand il fait référence aux philosophes de l'Antiquité qui, pour eux, la philosophie est un mode de vie dans la simplicité. Il mentionne la pauvreté volontaire. Nous, les simplicitaires, on va pas jusqu'à vivre dans la pauvreté, mais on vit dans la simplicité. Et cet extrait-là, je trouve, c'est un bel extrait de qui résume un peu ce dont parle notre émission en toute simplicité. Maintenant, dans les annonces, c'est pour ceux qui s'intéressent, on a... pour commencer, je veux rappeler que le pape est sorti cette semaine pour faire une autre espèce de manifeste qui s'appelle Laudate Deum. Alors, pour ceux qui s'intéressent, vous écrivez Laudate Deum dans Google, puis vous irez voir la note dans Wikipédia qui parle de ce manifeste-là. C'est un manifeste écologique. Alors, cette semaine, il y a une semaine d'activité qu'on pourrait dire à caractère écologique à la paroisse Notre-Dame de Foix. En fin de compte, c'est les églises de Notre-Dame de Foix, Sainte-Foy. Et puis, il y a une série d'activités qui sont offertes un peu dans tout ce contexte-là du pape François, qui, son manifeste, c'est vraiment, j'appelle ça un manifeste écologique qui nous rappelle ce dont on parle aussi à l'émission, là, de l'importance de réagir face au changement climatique, que l'humanité doit s'activer pour prendre conscience de cette réalité-là puis faire quelque chose. Et alors, dans ce contexte-là, il y a une série d'activités, comme je vous disais, et entre autres, ce soir à 19h, c'est à l'église Sainte-Geneviève, la projection du film Legacy, L-E-G-A-C-Y. C'est un film qui a été fait par le photographe et cinéaste connu, Yann Arthus Bertrand. Et voilà. Alors, c'est annoncé aussi dans l'infolettre des Amis de la Terre, nos activités du comité de simplicité volontaire, qui commandite l'émission là, en toute simplicité, sont toutes maintenant annoncées, là, parce qu'on n'est plus le GSVQ, là, on est devenu un comité au sein des Amis de la Terre. Alors, ces activités-là sont annoncées à l'intérieur de l'infolettre des Amis de la Terre. Alors, ce soir à 19h à l'église Sainte-Geneviève, puis dimanche, toujours à l'église Sainte-Geneviève, une conférence d'un ancien recteur de l'Université Laval, Michel Pigeon, qui est retourné, il avait pris sa retraite, il est retourné aux études, il a fait un autre doctorat sur... il s'est intéressé à aux jeunes face au changement climatique. Alors, sa conférence va porter là-dessus. Alors, c'est dimanche à 15h, toujours à l'église Sainte-Geneviève, dans la paroisse Notre-Dame de Foix. C'est à Sainte-Foy. Maintenant, dans les actualités, les articles l'article que j'ai retenu, c'était dans Le Devoir de mardi dernier. Alexandre Shields, qui est le chroniqueur environnemental pour Le Devoir, qui publie beaucoup d'articles ces temps-ci sur l'écologie, le changement climatique. Alors, le titre de l'article, c'est Le réchauffement planétaire devrait dépasser 1,5 degré Celsius d'ici 2034. L'accord de Paris, censé nous éviter le pire de la crise climatique, pourrait être hors d'atteinte dans à peine 10 ans. Alors, la semaine dernière, je vous avais lu un autre article là, de M. Shields qui parlait du livre de David Wallace Wells, qui lui disait, il était très, très pessimiste il y a quelques années. C'est pas qu'il était optimiste, mais il pense qu'on va éviter les pires scénarios qui sont apocalyptiques là, de 4 degrés de réchauffement. Sauf que, d'un autre côté, la cible qu'on s'était fixée aux accords de Paris, semblerait qu'elle va être difficile à atteindre, en tout cas. C'est ce qu'on dit dans l'article. Alors, on dit l'année 2023 est en voie de devenir la plus chaude de l'histoire de l'humanité et le rythme de réchauffement est tel que l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, censé nous éviter le pire de la crise climatique, pourrait être hors d'atteinte dans à peine plus de 10 ans. Selon une mise à jour de la trajectoire climatique mondiale établie par l'Observatoire européen Copernicus, le réchauffement planétaire devrait atteindre 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle d'ici la fin de 2034. Ce niveau de dérèglement du climat deviendra une réalité si la trajectoire actuelle se maintient, précise l'organisation, qui est une référence dans le domaine des changements climatiques. Ses conclusions rejoignent celles d'une étude publiée au début 2023 dans Proceedings of the National Academy of Sciences et qui indiquait que la barre du 1,5 degré Celsius devrait être atteinte entre 2033 et 2035. Cette limite de 1,5 degré Celsius a été inscrite comme étant l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris signé en 2015. Elle vise à éviter le pire du réchauffement climatique qui est déjà en cours en raison de notre dépendance aux énergies fossiles. Le respect de cet engagement nécessiterait au minimum de plafonner les émissions mondiales de gaz à effet de serre au plus tard d'ici 2025, ce qui est assez ambitieux, puis de les réduire de 43 % d'ici 2030 par rapport au niveau de 2019. Mais pour le moment, les engagements volontaires pris par les États nous conduisent plutôt vers un réchauffement d'au moins 2,5 degrés Celsius, et ce, en supposant que tous atteignent leur objectif. Alors, c'est dans Le Devoir, c'est un assez long article, dans Le Devoir de mardi dernier, page A4. J'en avais parlé la semaine dernière aussi. Il y a le dernier numéro de Relations qui traite du sujet de l'effondrement. Alors, en tout cas, tout ça, c'est relié, là, comme je vous disais, les activités cette semaine, l'encyclique du pape. C'est pas rassurant, disons. Et le numéro de relation, par contre, j'aime bien, c'est que quand même, il essaie de nuancer un peu le concept d'effondrement. Il y a des critiques intéressantes là-dedans, entre autres, des critiques du livre, un des livres qui a mis cette idée-là au monde, en tout cas, qui a fait connaître cette idée-là. C'est le livre de Jared Diamond, Collapse ou effondrement. Et dans le numéro, le dernier numéro de relation qui s'appelle Par-delà l'effondrement, le titre, c'est Par-delà l'effondrement, on nous dit qu'il y a des critiques. Il y a des critiques qui ont été publiées sur. Fait qu'il y a disons qu'il y a une polémique autour de ça. Puis je pense que c'est important là, de voir ces nuances-là parce qu'on a tendance à être plus catastrophiste sans nécessairement nier qu'il faut faire de quoi. Il ne faut pas non plus considérer que l'effondrement est inévitable. Alors, je vous résume un peu ici un article dans ce numéro-là de Yves-Marie Abraham. Alors, il dit « Que cachent les discours effondristes? Les théories effondristes ont suscité ces dernières années un réel engouement. Devant celui-ci, cultiver un esprit critique est plus que jamais nécessaire pour répondre de façon juste et démocratique aux crises de notre temps. Depuis le milieu des années 2010, en Occident, les discours annonçant l'effondrement prochain de nos sociétés se multiplient et connaissent une popularité grandissante. Deux textes, notamment, ont été très influents. D'abord, « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, et « Adaptation radicale », une carte pour naviguer dans la tragédie climatique de Jem Belden. Dans l'article, on parle plus loin aussi de l'article, ou pas de l'article, mais du livre de Jared Diamond que je rajouterais là, à ces trois textes-là. Alors, on dit « Pourquoi un engouement? La crainte de l'apocalypse hante le monde judéo-chrétien depuis ses origines. Le succès des discours effondristes n'en constitue peut-être qu'une expression sécularisée. Mais comment se fait-il que cette peur s'exprime maintenant? Risquons quelques hypothèses d'inspiration matérialiste. » Comme je l'ai signalé au départ, les deux textes collapsologiques les plus connus, « Comment tout peut s'effondrer » et « Adaptation radicale », ont suscité de nombreux débats après l'année 2018, saison au cours de laquelle les pays occidentaux ont été frappés par des événements météorologiques extrêmes et par leurs conséquences désastreuses. Faut-il écouter les effondristes? Les discours catastrophistes présentent l'effondrement comme un événement à la fois inéluctable et imminent. Outre le caractère anti-scientifique d'une telle prophétie qui discrédite à elle seule une bonne part de la collapsologie, de telles assertions risquent de décourager d'emblée toute révolte ou toute protestation de l'ordre en place. Trop tard, comme... Alors ça, c'est un autre livre qu'on a vu, c'est Harvey Mead, qui était venu d'ailleurs à notre colloque qu'on avait organisé sur le sujet il y a 5-6 ans. Trop tard, comme le titrait le dernier ouvrage de l'écologiste Harvey Mead. Il ne nous reste alors qu'à vivre le deuil de notre monde et à nous préparer à faire face aux conséquences de cet effondrement. La seule question qui vaille est celle de la survie, et si le survivalisme qui en découle passe par des solutions collectives et en partie sur l'entraide, cependant, le message est clair, l'attitude raisonnable consiste à s'adapter à la situation ou, pour reprendre une notion dans l'air du temps, à cultiver sa résilience. Alors, il conclut comme ça, pour une écologie vraiment politique. Contre cet écologisme mutilé, parce que dépolitisé, comme le suggère le philosophe Renaud Garcia, qui nous conduit tout droit à l'administration du désastre par les pouvoirs en place et à la soumission durable des populations placées sous leur autorité, on peut et on doit faire valoir un discours de la situation autrement plus émancipateur. Alors, il dit tout. Enfin, on doit rappeler que, tout comme toute manière de vivre ensemble inventée par les humains, cette civilisation est contingente. Bien qu'hégémonique actuellement, elle aurait pu ne pas être et pourrait ne plus être. Son avenir n'est pas écrit. Contrairement à ce que prédisent les effondristes, elle a potentiellement encore de beaux jours devant elle, entre autres parce qu'il reste assez d'hydrocarbures à brûler pour faire tourner les moteurs de nos machines pendant longtemps. Sa disparition dépendra d'abord de nous, bien plus que des limites planétaires. C'est à nous, en effet, qu'il revient d'abord de fixer ou pas les limites de l'expansion du capital et de la puissance technoscientifique. En cela, c'est un travail politique qu'il y a urgence d'accomplir, du moins si l'on considère que l'enjeu de l'heure n'est pas seulement de sauver la nature, mais aussi la justice et la liberté. Alors, c'est un résumé d'un article là, dans la revue Relations. Il y a plusieurs articles sur la thématique de l'effondrement. Et pour finir, je veux seulement vous dire qu'il y a un nouveau Philosophie Magazine qui est en kiosque présentement. au niveau de notre émission, il n'y a pas beaucoup d'articles qui pourraient nous concerner, mais quand même, c'est toujours intéressant. C'est la Philosophie Magazine, je le lis à chaque numéro, Et notre émission qui s'intéresse à la philosophie, ben c'est un immanquable, le Philosophie Magazine. Et quand même intéressant. Et la thématique, c'est « Et si on apprenait autrement? » C'est il porte sur une réflexion sur l'éducation. Alors, c'est le dernier numéro de Philosophie Magazine. Alors, on prend une petite pause et puis je reviens avec un extrait du hors-série, justement, de Philosophie Magazine. Le dernier Philosophie Magazine qui s'intitulait « L'art de ne rien faire ». Alors, c'était une pièce d'Éric Satie, Gymnopédie. En fait, le titre, c'est First Gymnopédie. C'est un disque de harpe. Le titre de l'album, c'est Harp to Heart. Et l'harpiste, c'est Ginetta Barry. Voilà. Alors, c'est ça. Alors, il y a aussi en kiosque actuellement un Philosophie Magazine hors série qui, lui, est beaucoup plus près de ce que la thématique de notre émission. En fait, je dirais que c'est un numéro sur la simplicité volontaire, l'art de ne rien faire. C'est une boutade, là, parce que ce qu'on dit en simplicité volontaire, pas qu'on fait rien, mais que, comme les philosophes de l'Antiquité disaient, c'est que pourquoi on réduit nos activités, c'est pour prendre le temps de vivre, prendre le temps d'être présent à la vie, comme entre autres Épicure qui disait d'avoir des activités de l'esprit plus élevées. Alors c'est ça, c'est toute une suite d'articles sur le sujet du loisir, d'être dans le moment présent, etc. Alors, je vous lis. Alors, c'est en leçon. Alors, la leçon numéro un, c'est Carpe diem, profiter de l'instant avec Épicure et Montaigne. Et la leçon numéro deux, c'est savoir cultiver l'oisiveté avec Arendt et Sénèque. Alors, on dit, la mère de tous les vices a une réputation imméritée, car l'oisiveté, dit Sénèque, c'est une des clés du bonheur. Plus d'osium, osium en latin, c'est loisir. Plus d'osium, moins de négocium, les occupations. Alors, c'est intéressant, négocium, c'est l'absence de loisir. Un credo qui suppose de renoncer à la course à l'échalote, à la soif d'argent, d'honneur, de pouvoir et de plaisir, pour se consacrer à l'épanouissement de l'âme. Plus facile pour le milliardaire philosophe que pour un esclave de son palais, mais il n'a pas tort. Empare-toi de toutes tes heures, car on diffère de vivre. La vie nous échappe. Alors, le premier article dans la leçon numéro 2, c'est « Scolae otium », l'oisivité des philosophes. Pour comprendre ce qu'est le loisir, nous nous tournions vers nos lointains ancêtres, grecs et romains. La scolae et l'osium ne coïncident pas exactement avec ce que nous entendons par oisivité. Ces vieilles notions dessinent en creux ce que pourrait être un temps libre parfaitement épanouissant. Alors, c'est l'article en question, c'est un article d'Octave Lamarniac Matteron, puis là, c'est sa citation au début. Alors, là, je vous résume un peu cet article-là. Alors, on dit, c'est par un mot étrange que les Grecs désignaient ce que l'on traduit parfois par loisir ou temps libre. Quel rapport, en effet, entre scolae et l'école? Scolae, c'est loisir, scolae, c'est de là que vient le mot école, qui partage une même étymologie. Quoi de plus opposé de prime abord que l'étude laborieuse et la douce oisivité? Le détour par la racine indo-européenne des deux mots nous éclaire. Le sens d'écho, c'est posséder, plus exactement, se posséder, être maître de soi. Les hommes de la scolae, dans la Grèce antique, sont les hommes qui ont le loisir de cette possession, ceux qui ne sont pas aliénés à la nécessité excentrique de travailler pour subvenir aux besoins vitaux qui sans cesse les arrachent à eux-mêmes, ceux dont l'existence ne se résume pas à répondre aux exigences les plus basses, les plus contraintes du corps et de ses appétits, ceux qui peuvent donc se consacrer aux choses élevées de l'esprit que rien sinon nous-mêmes ne nous incite à étudier. Ainsi, la scolae n'implique pas tant l'inactivité que l'ouverture d'un espace d'activité pleinement autonome dans lequel l'individu s'engage volontairement, sans y être contraint par des déterminations hétéronomes. Ça rejoint aussi ce que je vous dis, que je vous lisais de Thoreau au début de l'émission, quand Thoreau parlait des philosophes de l'Antiquité qui vivaient dans la pauvreté, une pauvreté extérieure, mais une richesse intérieure. Alors, c'est pour ça que les philosophes de l'Antiquité, il y en avait qui étaient très riches. On pense à Marc Aurèle, qui était l'empereur de Rome, ou même Sénèque, qui était un des hommes les plus riches de Rome, mais la plupart vivaient dans une très grande simplicité pour se consacrer à des activités, on pourrait dire des activités de l'esprit. Alors ici, mais où donc trouver cet authentique bonheur du repos? Le plaisir ne suffit pas, car il n'est point uniforme pour tous. Il n'élève pas l'homme au-delà de sa particularité. Pour passer dignement son loisir, on a besoin de connaissances. Ces études doivent avoir pour but unique l'individu qui en jouit, de même que les études qui ont l'activité pour objet doivent être considérées comme des nécessités. Étudier dans le seul but d'étudier, en somme, voilà la clé de l'épanouissement de l'homme, de l'actualisation de la partie la plus haute de son âme, la partie intellective. Tous les animaux se reposent, mais leur repos est pure passivité. Il convient, au contraire, à l'homme, dans ce moment privilégié du repos, de réaliser cette puissance intellectuelle qui, hors du repos, n'a guère le temps de se déployer. Le vrai loisir, repos studio, est défini par son autonomie, laquelle est atteinte seulement dans la contemplation, la seule activité à être animée pour elle-même, qui ne produit rien en dehors de l'acte même de contemplation. On dit ici « osium et negocium ». Cette tradition de pensée se prolongera dans le monde romain à travers la notion d'osium, le couple qu'elle forme avec negocium, négation de l'osium, occupation. Alors, osium, comme je vous disais, c'est loisir. Le concept de loisir était très important pour les philosophes romains. Est osium toute activité, toute dépense de temps qui ne sont pas consacrées au négocium, résume l'historien Jean-Marie André, dans Recherche sur l'osium romain. Les deux termes sont opposés, sans hiérarchie à l'origine. Le temps de l'osium est simplement le temps où l'on n'a rien à faire, temps d'inactivité comme le loisir. Les anciens Romains, soldats, paysans, conservaient le loisir comme le temps laissé libre par le calendrier agricole, par les opérations militaires. Avec le développement de l'éthique civique, l'osium s'oppose également aux officiats, ensemble de charges, devoirs et services publics tournés vers le bien commun de la cité. Il finira par évoquer, face à l'agitation de la vie publique urbaine, la tranquillité des existences privées, l'apolitisme serein. Les épicuriens en particulier exulteront cette forme de retrait dans l'intimité du jardin et nourriront le mythe d'une étymologie pastorale. Au commencement était l'osium, l'aimable nonchalance, la vie facile au sein d'une nature luxuriante et généreuse. Ensuite, vint la dure loi du travail. Alors, c'est ça. Alors, c'est un extrait de Philosophie Magazine hors série que je vous recommande pour ceux qui s'intéressent à l'émission en toute simplicité, qui est en kiosque présentement, L'art de ne rien faire. Alors, on prend une petite pause. Puis on revient avec notre série sur la marche et les philosophes.
Trop d'exigences ou trop de performances, je cultive la nonchalance. Et quand à fond ça gaze, je ne suis pas kamikaze. Sur la détente, je mets l'emphase. La barre est haute, il faut que je saute sans faire de faute. La barre est haute, il faut que je saute pour plaire aux autres. Y a-t-il quelqu'un qui s'y oppose? Y a-t-il quelqu'un qui s'y oppose?
On s'y oppose?
Pour trop de dopamine et trop d'adrénaline, j'ajoute de la mélatonine. En forçant l'analyse, c'est que moi je maîtrise la façon de sauver la mise. La barre est haute, il faut que je saute sans faire de faute. La barre est haute, il faut que je saute. Petite pause, c'est le gros bon sens qui me l'impose. Y a-t-il quelqu'un qui s'y oppose? Y a-t-il quelqu'un qui s'y oppose?
On s'y oppose.
Alors, c'était Jean-Marc Aurel, une petite pause de son album, justement, qui s'intitule « Une petite pause ». Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Jean-Jacques Rousseau. Comme je vous disais tantôt, chez les philosophes de l'Antiquité, ce qui était commun aux philosophes de l'Antiquité, c'était qu'ils vivaient pour la plupart, souvent dans une sorte de pauvreté, simplicité. Ils vivaient très simplement, les philosophes d'Antiquité, pour avoir du temps à se consacrer aux activités de l'esprit. Maintenant, une autre activité qui est commune, en tout cas très fréquente, c'est les philosophes, c'était la marche. Beaucoup de philosophes disaient que c'est en marchant qui enseignait, c'est en marchant qui avait les idées pour ceux qui écrivaient de la philosophie, qui avaient pour écrire leur traité de philosophie. Montaigne, qui marchait, lui, dans sa... Il y avait une espèce de tour avec sa librairie, puis il faisait les 100 pas en marchant, il dictait ses pensées. Alors, c'était une pratique assez commune chez les philosophes. Et là, je vous lis un extrait, justement. C'est un philosophe qui s'appelle Roger Paul, R-O-G-E-R-P-O-L, Roger Paul Droit. Puis lui, il a écrit un petit livre qui est sympathique. Le titre du livre, c'est « Comment marchent les philosophes ». Puis il y a une série de philosophes qui sont présentés avec, finalement, là, comment la marche se présentait pour eux. pour Rousseau, comme je vous disais, qui est le philosophe auquel on va s'attarder aujourd'hui, un de ses textes les plus célèbres, c'est en fin de compte, c'est la dernière chose qu'il a écrit, c'est « Les rêveries du promeneur solitaire ». C'est un très beau texte, hein, si vous voulez quelque chose de très beau sur la espèce de réflexion sur la vie, sur la nature. Et puis, c'est des promenades. Alors, « Les rêveries du promeneur solitaire ». Rousseau réinvente la promenade. Ce n'est pas uniquement dans la nature qu'il chemine, mais aussi dans les siècles et dans l'histoire. Alors Rousseau dit « La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées. Je ne puis presque penser quand je reste en place. Il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit. » Tout est dit. En apparence, Rousseau, comme Montaigne, comme Nietzsche et bien d'autres, est de ceux qui marchent, pensent, qui ont l'esprit dans les pieds et arpentent leurs idées en déambulant dans la nature. Ce n'est donc pas seulement par nécessité qu'il a tant voyagé à pied, de Genève à Paris, de Chambéry à Turin, marchant en France comme en Italie, pouvant écrire « Je vis Milan, Vérone, Brest, Padoue et j'arrive enfin à Venise », sans doute faisait-il comme les gens du peuple. Apprenti, commis, domestique, ouvrier, n'avait pas les moyens d'emprunter les diligences ni la malle-poste. Il leur fallait, s'ils voulaient aller quelque part, prendre la route sur leurs deux jambes. Alors, ça, c'est vraiment nouveau de notre époque où les gens sont dans des automobiles et on marche beaucoup, beaucoup moins. Auparavant, dans l'histoire, bien, tout le monde marchait. Puis si on va dans des pays un peu moins développés, qu'on pourrait dire, bien, les gens marchent. Il y a des gens dans les rues, il y a les villes sont remplies de marcheurs. Tandis que nous, bien, surtout quand on va dans les banlieues, c'est comme des villes fantômes. On voit personne marche. En tout cas, Rousseau, lui, non seulement marchait dans sa ville, mais il a beaucoup voyagé à pied à travers l'Europe. La différence avec Rousseau, c'est qu'il aime ses longues marches, actives mais lentes, utiles mais rêveuses. Il ne se déplace pas dans la nature, on dirait plutôt qu'il s'y fond, s'y dilue. Il flotte, gambade, flâne, progressant en même temps à travers champs et idées, avec une intensité, presque une exaltation, partout perceptible. Dans les confessions, il dit à propos des voyages, « Jamais je n'ai tant pensé, tant existé, tant vécu, tant été moi, si j'ose ainsi dire, que dans ceux que j'ai faits seul et à pied. » Marche, solitude et pensée ne font qu'un chez Rousseau. C'est ce que dira le titre de son dernier écrit, dont chaque mot compte. Les rêveries du promeneur solitaire. Ses 10 promenades terminent sa vie. La dernière, où il évoque maman, Madame de Warrens, son folle et sage amour de jeunesse, fut interrompue par la mort. Mais ce n'est qu'une apparence, car Jean-Jacques, même mort, ne cesse de marcher. Ses textes le font pour lui. Il persiste à déambuler, prolonge indéfiniment leur itinéraire. Rousseau a inventé, mine de rien, la promenade infinie. Il part généralement pour l'avoir réinventée. Sans aucun doute, la promenade a existé bien avant lui. Déambuler pour le plaisir était déjà fréquent chez les Romains et n'a jamais vraiment cessé. Le tournant que marque le nom de Rousseau n'est donc pas la création d'une activité jusqu'alors inconnue, mais il fait réémerger la promenade du voyage comme une activité trouvant sa fin en elle-même, possédant ses plaisirs propres et son esthétique singulière. Avant lui, on se déplaçait à pied par utilité, par nécessité, contraint d'aller pédestrement d'un lieu à l'autre, de ville en ville, en changeant parfois de pays. Avec joie ou avec douleur, enthousiaste ou fatigué, peu importait, l'essentiel était l'arrivée. Avec Rousseau, c'est le trajet qui devient essentiel. le plaisir l'emporte sur l'utilité. Après lui, sur son impulsion, les romantiques vont faire de la promenade un art, une façon d'être, presque une raison de vivre. Marcher pour découvrir et non pour aller quelque part, voilà la nouveauté. Je pense, entre autres, les gens qui font le pèlerinage de Compostelle. Le but, c'est pas d'arriver à Compostelle. La raison de ce pèlerinage-là, c'est la marche en soi, c'est le pèlerinage en soi. Et même, bien des gens font ce pèlerinage-là sans se rendre jusqu'à Compostelle. C'est comme une destination commune de plusieurs chemins possibles. Et puis pour certains, oui, là, finalement, ils arrivent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais c'est le but, pour le philosophe, c'est la marche en soi. Découvrir quoi, au juste? Ce qui est, qui l'on est, ce qu'il y a à penser. Découvrir, du même pas, des paysages et soi-même, la nature et le hasard, les tournants de la route et les détours de l'esprit. Ces éléments ne se distinguent plus. Votre âme est un paysage choisi, dira plus tard Verlaine. Le paysage est ma pensée, dit à peu près Rousseau. En le découvrant, il se découvre. La promenade est à la jonction exacte des idées du monde, du corps et des mots. Elle les unit et les distingue d'un même mouvement, d'une même démarche. Le long trajet devient en quelque sorte une charnière. Homme et nature s'y articulent. La nature se fait parlante, protectrice, maternelle. L'humain se dépouille des artifices, sans sauvage, revient vers l'essentiel. Chaque promenade est une expérience, un processus intime, physique et psychique, avec parfois des points de fusion, comme des moments extrêmes. Comment nommer ces instants si intenses et si étranges? Ils combinent vertige et intuition, voyage dans le temps et fulgurance instantanée. Dans ces éclairs rares, d'une puissance déconcertante, difficile de savoir où l'on marche. Est-ce dans la nature, dans la pensée, dans l'histoire, tout à la fois, sans doute, indistinctement.
Guerra infame, tu m'hai rovinato, tu mi rapisti lo sposo adorato, tra la miseria, la rabbia, il tormento, col suo valore partii contento. Guerra infame, tu m'hai rovinato, tu mi rapisti lo sposo adorato, tra la miseria, la rabbia, il tormento, col suo valore partii contento. E ancor ricordo quel giorno fatale che dal mio seno me l'hanno strappato, sia maledetta la guerra e il furore, fate tornare, vi prego, il mio amore. E ancor ricordo quel giorno fatale che dal mio seno me l'hanno strappato, e lui mi disse: verrò dal mio bene, che va dal bimbo al nostro amor. E con tanti altri bei giovani fiori, spinti da vili e potenti signori, fratelli siamo tutti, fratelli siamo nati, e non stranieri ma uguali creati. E ancor ricordo quel giorno fatale che dal mio seno me l'hanno strappato, sia maledetta la guerra e il furore, fate tornare, vi prego, il mio amore. Tra la miseria, la rabbia, il tormento, parti cantando al suon di dolore, e contro gli altri bei giovani fiori, spinti da vili e potenti signori.
Thank you.
C'était Andrea Capezzuoli, C-A-P-E-Z-Z-U-O-L-I. Et le nom de la pièce, c'était Guerra Infâme. Et j'aime beaucoup cet instrument-là, l'accordéon, et particulièrement l'accordéon diatonique. C'est un petit instrument. Puis ici, au Québec, d'ailleurs, il y a un bon article dans Le Devoir cette semaine sur les nouvelles. On n'aura pas le temps de lire, mais je vais revenir sur cet article-là la semaine prochaine. Mais l'accordéon diatonique, c'est un petit instrument. Puis en Europe, on se déplaçait en marchant. Alors, il y avait des marches, ils appelaient ça les jacqueries en Europe. Puis souvent, il y avait ces marches de protestation-là. Il y avait un accordéoniste avec son accordéon diatonique. Et c'est ça, on le sentait un peu dans cette pièce d'accordéon-là, on dirait qu'on était en train de marcher. Alors, voilà, c'est terminé pour cette semaine. Et on vous revient la semaine prochaine. Alors, bonne semaine à tous.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Coupure budgétaire, mise à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA-FM.